Alors d'abord, toutes mes excuses aux personnes qui se sont déplacées la semaine dernière. Il s'est trouvé que j'avais du temps. J'avais deux journées sans contrainte professionnelle et je me suis plongé dans une recherche, parce que c'est une partie de mon travail, la recherche. Et du coup, j'ai même pas ouvert mon agenda et tout a disparu en fait. Voilà, donc excusez-moi et je suis content de me retrouver ici ce soir avec vous. Alors, 21 minutes donc pour parler de la question de l'autorité, de la possibilité de dire non. Alors je vais développer mon propos en deux plans. Le premier, c'est pour essayer de situer un petit peu le contexte. Et puis le deuxième, ça va être pour apporter quelques réponses. Donc premier plan, l'évolution du contexte éducatif. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir problème? Alors d'abord, première chose, en ce qui concerne la petite enfance, il est important de noter que les enfants ont besoin de limites. Pourquoi besoin de limites? Parce que, non pas simplement d'un point de vue éducatif, ça permet aux parents d'avoir la paix, ou ça permet de socialiser les enfants, toutes choses qui sont très très importantes, mais les enfants ont besoin de limites pour se rassurer. Alors, c'est une chose très importante sur laquelle je reviendrai certainement, cette notion de limite, parce qu'un enfant, à partir de la toute petite enfance, est dans une situation particulière qui est qu'il est à la fois totalement nu et impuissant, parce qu'il ne peut rien faire tout seul, hein, pensez à un bébé, et en même temps, à chaque fois qu'il manifeste un besoin, son entourage se précipite pour y répondre à ce besoin. C'est ce qui va lui donner un sentiment diffus, parce qu'il n'est pas encore en capacité de penser ça, un sentiment diffus de toute puissance, c'est-à-dire qu'il commande, entre guillemets, aux adultes qui s'occupent de lui. Et c'est une position très forte d'être à la fois exposé du fait de sa fragilité à tous les dangers, et en même temps, d'être dans une forme de toute puissance. Lui poser des limites, ça va venir border cette toute puissance qui, il est important de le dire, est à la fois euphorisante, on peut y penser pour chacun d'entre nous, avoir tout pouvoir, c'est quelque chose qui peut être une forme de fantasme pour chacun d'entre nous, mais en même temps, c'est une source extrêmement profonde d'angoisse. Et les enfants, dès la toute petite enfance, sont susceptibles d'éprouver cette angoisse. Alors, comment est-ce que cette angoisse trouve sa source dans le sentiment de toute-puissance? Ben justement, parce que le sentiment de toute-puissance s'affranchit des limites. Tout est possible. Mais en même temps que tout est possible, du coup, tout peut m'arriver. Je peux être responsable de tout. Et ceci est assez effrayant, y compris à l'âge adulte, pour chacun d'entre nous, nous avons besoin de sentir que, bon, certes, nous sommes un peu bridés par nos limites, mais en même temps, on ne peut pas être responsable de tout à la fois. Les limites, c'est ce qui apaise chacun d'entre nous. Mais, par ailleurs, on ne peut pas dissocier cette notion de limite de la notion d'affection. C'est-à-dire que si on envisageait un mode d'éducation où on serait complètement fixé sur l'idée de donner des limites, indépendamment de l'affection qu'on donnerait à l'enfant, quelque part, ça ne lui permettrait pas de se développer. Ça créerait même des troubles très importants. Alors, il y a des illustrations bien malheureuses sur le plan historique d'éducation où précisément une certaine rigidité a prévalu sans qu'il y ait l'affection qui l'accompagne. C'est l'exemple que donne la psychanalyste Alice Miller quand elle étudie l'enfance d'un certain nombre de personnalités qui vont prendre le pouvoir lors du Troisième Reich, donc y compris d'Adolf Hitler. Ce sont des personnalités dont elle a pu retrouver des traces de leur enfance qui ont été élevées de manière extrêmement rigide, extrêmement dure. Alors le sens des limites, il y était, mais on voit ce que ça a donné par la suite. ça a créé des personnalités incapables d'empathie et qui ont basculé dans la cruauté. Il y a donc un équilibre à trouver entre les limites qu'on pose et l'affection dans laquelle on prend l'enfant, de manière à ce que les limites qu'on pose soient acceptées par lui ou par elle, cet enfant, parce qu'elles viennent de quelqu'un dont on ne doute pas qu'il nous aime, qu'il nous veut du bien. Donc il y a des passages difficiles, le moment où on va dire non, et les psychanalystes nous disent que l'enfant est capable d'éprouver de la haine à ce moment-là pour son parent, mais cette haine va passer pourvu qu'il y ait bien une relation affective. Deuxième point, toujours pour contextualiser la question de l'enfance et de la petite enfance aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans des conditions tout à fait particulières qui sont sans précédent. Jamais la petite enfance n'a été protégée comme aujourd'hui. On n'a plus affaire à une mortalité enfantine massive comme ça a été le cas il y a encore 2 siècles. Très tôt, on se préoccupe de stimuler les enfants, la preuve. On leur donne des imprimés, des illustrés adaptés à leur âge, un matériel tout adapté. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, la petite enfance, elle restait un petit peu dans une espèce de no man's land. Bon, voilà, on nourrissait l'enfant, on le laissait vaquer, mais on ne se préoccupait pas de lui apprendre les couleurs, des emboîtements, de lui apprendre à colorier dans les contours, etc. Aujourd'hui, très tôt, on sollicite l'enfance. Et on prend beaucoup de précautions pour qu'il n'arrive pas de problème. Donc on va proposer un matériel avec lequel on ne va pas se blesser, un toboggan dans lequel on ne va pas s'accrocher, une cage à écureuil dont on ne puisse pas tomber en se faisant mal, des revêtements souples. Vous voyez, on adapte beaucoup les choses aux enfants pour les protéger. Donc c'est ce qui m'amène à parler d'une forme de surprotection, parce qu'au fond, du coup, ils ne font pas tout à fait l'expérience de la réalité, ils font une expérience de milieu tout à fait adapté. Alors on pourrait dire que ça témoigne d'un rapprochement des enfants et des parents, les parents étant beaucoup plus préoccupés et beaucoup plus occupés par leurs enfants que dans les générations précédentes. Or, ça n'est pas si sûr que ça, parce que les parents sont débordés sans doute plus que jamais, y compris à l'heure des 35 heures, y compris à des moments où on pourrait considérer qu'il y a plus de loisirs que jamais. Or, ce qui se passe dans notre société moderne, c'est, un sociologue a dit, il reprend sa formule, on n'a jamais travaillé si peu de temps, mais le travail n'a jamais pris autant d'importance. C'est-à-dire que les adultes sont de plus en plus préoccupés par leur travail, ils y pensent, ils ont des courriels à la maison, ils ramènent des dossiers à la maison, ils sont de plus en plus accaparés. À ceci s'ajoutent leurs activités personnelles, qui vont aussi les accaparer. Et nous sommes loin d'une autre époque dans laquelle, alors je remonte loin le cas échéant, certes, les parents étaient moins préoccupés de l'éducation des enfants, en tout cas des petits, mais ils pouvaient partager de multiples activités. Pensons à la ferme, mais pensons aussi à l'atelier, où les enfants étaient mêlés aux activités, donc sans tout à fait s'occuper des enfants, du moins s'occupait-on ensemble avec telle ou telle activité. Donc, enfants et adultes étaient réunis, sans doute bien plus qu'ils ne le sont maintenant. Car la situation actuelle, c'est que, en fait, plus on s'occupe des enfants, plus on leur dédie des espaces séparés. C'est-à-dire des espaces qui sont exclusivement réservés à eux et dans lesquels ils ne font pas forcément la rencontre d'adultes. Et c'est un des soucis qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que l'autorité qui se négociait autrefois dans une forme de vie commune devient plus compliquée aujourd'hui, dans le sens où il y a moins d'activités communes et plus d'activités séparées. Troisième point qui me paraît important pour finir ce contexte, et donc ce premier plan du contexte que je veux donner sur la question de l'éducation aujourd'hui, une question sensible, peut-être y reviendra-t-on au moment du débat, c'est la place des pères. Bon, il ne faut pas se tromper. Certes, notre société évolue. Certes, les femmes prennent plus de place que jamais dans les milieux professionnels. Les hommes prennent plus de place que jamais dans l'éducation des enfants. Mais tout le monde sait que les femmes ont des salaires inférieurs, sans parler des pensions, qui sont très inférieures du fait, par exemple, qu'elles se sont arrêtées pour éduquer les enfants. Déjà, un premier préjudice. De l'autre côté, les pères, qui sont censés s'investir plus qu'auparavant, ont tendance, en fait, à s'investir comme le font les mères. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, ce sont des hommes qui font un peu les mères bis. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont donner le biberon, ils vont changer les couches, ils vont aller promener l'enfant, exactement comme le ferait la mère. Donc, du point de vue, on va dire, conjugal, c'est une bonne chose, puisqu'on va vers une égalité homme-femme. Mais du point de vue éducatif, j'affirme, et on pourra en discuter, que ça n'est pas une bonne chose, parce que le père n'est pas la mère. Or, aujourd'hui, beaucoup de pères font simplement comme les mères. Sauf que, premier problème, ils le font moins bien. Et deuxième problème, du coup, où est le père? Et qui est le père si le père fait la mère bis? Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'étais instituteur, il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai travaillé mes dernières années en maternelle et en petite section. Par militantisme, quand un enfant était malade, ça arrive très souvent, petite section, vu l'âge des enfants, j'appelais le père. On a toujours sur les fiches les deux numéros. J'ai fini par y renoncer. Pourquoi ? Le père me répondait, écoutez, j'appelle sa maman tout de suite. Donc je perdais du temps, donc j'ai fini par appeler les mères. Donc ça en disait long sur les priorités. Alors, on pourra y revenir tout à l'heure, mais je pense qu'il est nécessaire que des pères soient des pères et qu'ils jouent un autre rôle que celui des mères. Alors maintenant, mon deuxième plan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut construire ou reconstruire. Alors, je reviens là sur la question des limites. Il est important de poser des limites. Ces limites, on n'a pas à les justifier. C'est un grand souci aujourd'hui. On est persuadé que l'enfant raisonne, qu'il doit comprendre et qu'on doit lui expliquer et qu'on n'avancera pas tant qu'il n'aura pas compris. Alors, je ne vais pas m'en prendre à tout ça qui est une noble cause, c'est-à-dire que de considérer l'enfant comme digne d'intelligence, et d'ailleurs, les bébés eux-mêmes comprennent quand on leur parle, avant même de parler. Donc, ce n'est pas ça que je veux critiquer en soi. Ce que je veux critiquer, c'est le fait que on veuille systématiquement que l'enfant comprenne et accepte les contraintes qu'on lui donne. Or, une contrainte digne de ce nom, c'est une contrainte qui s'impose contre son désir. Et ceci, quelque part, ne peut pas être toujours compris et encore moins accepté. Donc, dans la limite, dans les limites qu'on pose, il y a une dimension incontournable de frustration. Et on connaît tout ça avec les enfants. Ce serait bien, il fait beau. Allez, on va sortir. Non, je ne veux pas sortir. Bon, c'est toute une histoire. Pour finir, on sort. On commence à jouer dehors. Ben, il va être l'heure de rentrer. Non, je ne veux pas rentrer. Bon, ça en devient presque un jeu. Ben, oui, nous sommes là, nous, les éducateurs, les parents, pour poser ces limites toutes simples qui amènent l'enfant, d'abord, à suivre des contraintes normales dans la vie familiale, mais aussi à vivre des frustrations. Alors c'est peut-être dur à dire, c'est peut-être pas politiquement correct, mais l'expérience de la frustration fait partie des expériences les plus fondamentales qui vont nous construire sur le plan psychique et nous permettre, j'ai envie de dire, non seulement de nous socialiser, parce que la vie sociale va générer beaucoup de frustrations, on ne pourra pas tout et on ne fera pas tout ce qu'on voudra. Mais de plus, ça va plus loin encore, c'est ce qui nous permet de ne pas devenir fou. Parce que si on ne supporte aucune frustration, c'est la porte ouverte à la folie. Et ceci, on le sait depuis longtemps, parce qu'un certain Jean-Jacques Rousseau a écrit dans son Émile, à l'égard d'un enfant qui cassait les vitres de sa chambre, et Rousseau préconisait de ne pas les réparer tout de suite, il disait je préfère un enfant enrhumé que fou. Voilà, qu'il fasse l'expérience des conséquences de son action, plutôt qu'on répare indéfiniment et que ça déréalise les choses. Poser des limites, c'est permettre à l'enfant de se sentir contenu. Et ça restera vrai longtemps, parce que ça restera vrai jusqu'à l'adolescence. Un adolescent ne cesse de vouloir franchir les frontières qu'on a posées, mais si on lui laisse franchir ces frontières, il se met en danger, il se sent en danger, le cas échéant. Donc, poser des limites, c'est un peu comme embrasser, prendre dans ses bras, c'est protéger. Et ceci, certes, va passer par des moments de difficulté, puisque la frustration peut générer vraiment une colère. Mais ceci est dépassable, cette colère momentanée, est dépassable pourvu qu'il y ait un attachement, de l'amour entre les enfants et les parents, de telle manière à ce que personne n'en doute. C'est-à-dire qu'on accepte que l'enfant se mette en colère, qu'il aille bouder, et qu'on ne se préoccupe pas de défaire sa colère ou sa bouderie comme si c'était un drame. Il a le droit d'avoir ses émotions, il a le droit de mal réagir à sa frustration. Et nous, on n'a pas à s'inquiéter du fait que, par exemple, du coup, il ne nous aimerait plus et qu'il va falloir réparer ça. Et qu'après avoir posé un acte frustrant, il faille tout de suite une compensation, ou pire encore, qu'il faille revenir en arrière en disant « Écoute, mais je t'ai dit non, mais finalement, allez, voilà, je te donne un gâteau de plus. Allez, ben finalement, on va ressortir. » Parce que du coup, là, on déréalise le monde de l'enfant. C'était le premier élément sur l'importance des limites. Deuxième élément qui m'apparaît vraiment très important à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte, j'emploie des mots qui peuvent paraître un peu décalés, mais d'habiter ensemble. Habiter ensemble. Alors, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les parents et les enfants, ils habitent bien ensemble? Non, je crois qu'ils logent dans le même domicile. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils habitent ensemble. Il y a une tendance qui ne cesse de se renforcer, toutes les études le montrent, et qui est de plus en plus précoce, qui fait qu'on équipe les enfants de matériel, de telle manière à ce qu'ils puissent jouer tout seuls, s'occuper tout seuls. Alors, certes, les adultes ont besoin de temps, bon, on peut le comprendre, mais le problème, c'est que ça devient rapidement une manière de se séparer à l'intérieur même du domicile. Et que ce que ça va donner, alors en particulier à la préadolescence, mais ceci se prépare en amont, et je le dis et je le répète, cette tendance s'accentue et devient de plus en plus précoce, on peut finalement cohabiter plutôt qu'habiter. À l'adolescence, je le dis quand j'interviens pour les adolescents, une fois qu'on a installé un adolescent dans sa chambre personnelle avec un ordinateur connecté, je le dis, pour provoquer un peu les parents, je dis, si vous avez fait ça, vous avez donc décidé de mettre un terme à son éducation. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y aura plus d'espace commun. Chacun va être dans son espace, on sait à quel point Internet, les jeux vidéo, la communication à distance peut accaparer un adolescent et qui va à peine descendre et sortir de sa chambre pour manger. Parce que la tendance aussi à l'américaine, c'est d'aller piocher dans le frigo à n'importe quelle heure, s'affranchir du repas qui était le dernier moment où on pouvait encore partager, échanger, discuter, s'intéresser les uns aux autres. Donc, nous devons apporter toute notre attention à maintenir des espaces que nous habitons ensemble, à l'intérieur desquels nous pouvons partager. Alors je crois beaucoup à cette possibilité de créer des occasions, quelles que soient ces occasions. Jouer, lire, se promener, tout autre chose, qui sont à la fois des finalités en elles-mêmes, parce que l'enfant va développer des activités, mais qui sont aussi des occasions d'être en relation. Jouer avec, lire à, sortir ensemble. Et c'est souvent dans ces occasions-là que quelque chose de plus que l'activité va être partagé. Alors, l'exemple que je vais prendre est un petit peu déplacé dans l'âge, mais vu l'âge que j'ai, mes enfants sont grands, et le dernier a 19 ans, l'expérience que j'ai vécue avec les adolescents a été très intéressante pour moi à cette occasion. C'est souvent dans des occasions imprévues que des choses importantes se disent. Un enfant qui me dit « Est-ce que tu peux m'amener à la gare pour que je prenne mon train ?» On monte dans la voiture, on met la radio, le temps passe un petit peu, puis tout d'un coup, il y a « Au fait, papa, tu sais ?» Et il y a quelque chose d'important qui se dit. Mais si j'avais voulu lui tirer les verres du nez, il n'en serait rien sorti. Donc, donnons-nous des occasions de partage. Je reviens encore à Rousseau, il disait « Si vous voulez un ami, faites de votre élève un ami. » Alors, on peut le dire d'un enfant, « Faites de vos enfants vos amis, c'est-à-dire partagez des moments de plaisir avec eux, et ceci sera très constructif. » Enfin, ce sera mon dernier mot, je reviens à cette notion de père et de mère. Je n'ai dit que quelque chose de négatif, c'est-à-dire que nous manquions de père, parce que trop souvent... Alors, les chiffres sont très alarmants. Il y a beaucoup de femmes seules, beaucoup de mères seules. En France, ça se chiffre en millions. Qu'est-ce que c'est qu'un père, du coup ? Et un père, précisément, c'est un tiers. La relation mère-enfant, elle est incontournable, sauf cas dramatique. Il y a quelque chose qui se noue, qui est très fort, à travers l'expérience de la grossesse qui démarre déjà avant la naissance de l'enfant, et qui crée un lien privilégié. Le père, là-dedans, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ou qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, il doit proposer autre chose. Et ça, j'y tiens beaucoup. Il doit proposer autre chose. C'est là son rôle. En proposant autre chose, que fait-il ? Il permet qu'il y ait un peu plus de distance entre la mère et l'enfant, parce qu'il les sépare. Mais il ne les sépare pas autoritairement, il les sépare dans la pratique, et il conduit déjà l'enfant vers l'extérieur. Donc quelque part, il fait quelque chose de difficile, parce que la mère et l'enfant n'ont pas forcément envie d'être séparés, mais il n'y a que lui qui puisse le faire. Lui, qui est l'homme que la femme aime, et donc cette femme est à la fois une mère qui regarde son enfant, et une femme qui regarde son compagnon. Et il est le père de l'enfant, donc... Il est, avec la mère, une figure que l'enfant s'attache. Donc il n'y a que le père qui puisse faire ça. Et qui conduise l'enfant vers d'autres activités, et je dirais volontiers davantage vers l'extérieur, de manière à jouer un rôle qui n'est pas celui de la mère. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bien. Merci.
Merci.